Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
N'attendez pas trop longtemps en tant que créateur pour vous lancer, puisque vaut mieux se planter tôt et continuer à avancer et continuer. Il vaut mieux se planter tôt que de ne rien faire. Et en écriture, c'est pareil. Les gens qui me demandent, mais j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil ? Écris. Juste écris. Pose-toi devant ton ordi et écris, tu verras bien ce que ça donne.
Il y a quelques mois, je suis allée voir la pièce « Une histoire d'amour » d'Alexis Michalik à la Scala à Paris, en n'ayant aucune idée d'à quoi m'attendre. Et au final, je suis sortie de là en larmes, mais en ayant autant ri que j'avais pleuré. Donc on est vraiment sur des bons gros sanglots de bébé cadom. Et en fait, cette pièce m'a vraiment envoyé des bulldozers dans la face, au point d'ailleurs que je suis retournée la voir une seconde fois, que j'ai acheté le roman d'Alexis, que j'ai regardé ses films et que je suis restée à Paris plusieurs soirs pour pouvoir voir ses autres créations, alors que je déteste cette ville. Alors pour ceux qui ne situent pas, Alexis Michalik est auteur de théâtre, metteur en scène, comédien et écrivain. Il a commencé sa carrière comme acteur télé, puis il a mis en scène des classiques revisités comme Roméo et Juliette, La mégère à peu près apprivoisée de Shakespeare, tout ça, avant d'écrire Le porteur d'histoire, qui était supposé être une pièce qui n'était jouée que 3 fois à Avignon et qui, 11 ans plus tard, est toujours à l'affiche. Aujourd'hui, Alexis a pas moins de 5 pièces programmées en même temps à Paris, dont le mythique Edmond, qui raconte l'histoire fictionnalisée de l'écriture de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand, une pièce qui a remporté 2 Molières et qu'Alexis a adaptée en film. En 2021, il a mis en scène la comédie musicale Les Producteurs, écrite par Mel Brooks. Elle est jouée en ce moment au Théâtre de Paris et sans vouloir vous aguicher, elle est vraiment fantastique et très très drôle. Donc forcément, j'avais envie de rencontrer Alexis Michalik pour comprendre comment autant de génies pouvaient tenir dans une seule personne. Donc je l'ai contacté et on a discuté de pas mal de trucs, de son obsession pour le rythme, tant dans les œuvres que dans la vie, d'écriture évidemment, de quand il sait que c'est le bon moment pour développer une idée qui lui trotte dans la tête depuis un petit temps, des structures de ses œuvres qui sont souvent des récits imbriqués les uns dans les autres et de comment il les écrit, du temps qui peut être un allié incroyable ou au contraire plutôt destructeur. Et puis je lui ai fait part de ma théorie qui est qu'il est le jumeau de Philippe Lachaud et qu'ils ont été séparés à la naissance. J'espère que tout ça vous plaira.
Mais en vrai, il y a plein de trucs extrêmement drôles glissés dans les pièces et tout. Genre moi, une histoire d'amour, j'étais évidemment en larmes pendant les 3/4, mais à un moment, j'ai éclaté de rire toute seule comme une teubée au moment où le frère va chez le médecin, ils sont plusieurs, et il dit « Ah, il y a un pot de départ ». Et là, mais, j'étais en train de décéder. Et il y a plein de trucs d'humour vraiment, vraiment...
Bah, c'est un humour de résistance. C'est justement parce que sinon c'est vraiment mélo et on fait que être triste quoi et on sort plombé. Donc le but c'est quand même de sortir en ayant quand même ri, en ayant un peu détendu les zygomatiques et puis du coup ça permet de faire passer beaucoup de choses très tristes ou un peu grosses quoi. Mmh. Donc Shakespeare quand il faisait ses plus grosses tragédies, il mettait quand même des scènes de comic relief en plein milieu pour tout d'un coup après avoir tué 3 personnes. On se marre un petit peu et puis après on y retourne quoi. Mmh. Donc il mélangeait un peu les deux. J'aime bien Alors, de toute façon, on a besoin de comédie, quoi.
Tu pourrais écrire une comédie pure, vraiment
Bah, je pense qu'Edmond, ça s'en rapproche un peu. On est vraiment sur le registre de la comédie, quand même. Parfois, c'est un peu sérieux, mais... Je pourrais, mais je pense que c'est le truc le plus difficile à écrire, en tout cas pour moi. Je trouve ça très, très dur d'écrire de la comédie. Chacun a des facilités pour selon ce qu'il écrit, chaque créateur, il va avoir des trucs plus compliqués, plus simples. Moi, on va dire ma facilité, entre guillemets, ce sera la structure. J'ai une écriture où tout de suite, je vais avoir une façon d'écrire architecturale, où je vais voir l'ensemble de l'histoire et pas me dire « Ah, j'ai envie de raconter ce moment » ou « avoir cette couleur » ou « avoir cette sensation ». Non, vraiment, je vais d'abord avoir une structure totale de l'intrigue. Et donc ça, c'est un peu mon domaine. Il y a des gens pour qui c'est un enfer, la structure, l'intrigue, raconter une histoire qui se tient, qui se termine, avoir des... Tout ça, c'est compliqué. Par contre, ils sont super doués pour faire de la vanne, ou ils sont super doués pour le dialogue, ou ils sont super doués pour... le drame ou pour écrire des choses magnifiques, de la poésie. Mais la poésie, ben si c'est pas au service d'une histoire, à un moment, ben ça reste de la poésie et ça n'est pas un spectacle, quoi. Et dans ce contexte-là, écrire de la comédie, j'aime beaucoup, mais écrire que de la comédie, une pure comédie, c'est un exercice que je trouve très difficile.
Mais j'ai une théorie.
Alors.
C'est que physiquement, il y a quand même un truc avec Lachaud, je sais plus son nom.
Philippe Lachaud.
Il y a un truc. Ouais. Et donc ma théorie.
Il est drôle physiquement.
Non, c'est que c'est ton jumeau maléfique.
Pourquoi maléfique?
Parce qu'il écrit des comédies, bah, qui moi me font pas énormément rire, tu vois. Mais il y a un.
Ouais, mais il faut quand même rire des gens.
Ah, mais il fait rire des millions de personnes, évidemment. Je dis pas qu'il a pas de talent, mais moi c'est pas mon truc, mais voilà, c'est ma théorie. C'est que vous êtes les deux jumeaux séparés à la naissance qui ont.
C'est possible. Tu vois, chacun s'est retrouvé à créer. L'un dans le cinéma et l'autre dans le théâtre, quoi.
Ouais,
peut-être, ouais. C'est possible. Mais
je te conseille de chercher.
Bah, je vais lui demander un petit test ADN, ouais. Mais voilà, ce qui fait, par exemple, j'aurais énormément de mal à faire ça, faire de la comédie pure. Et puis, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, je pourrais plus, je pense. Mais, parce que. Moi, à la base, avant le porteur d'histoire, je faisais des trucs qui étaient très comiques. Enfin, là, je faisais des classiques revisités. Les premiers spectacles que je montais, c'était notamment La Mégère à peu près apprivoisée. C'était une comédie musicale un peu Monty Pythonesque et qu'on avait joué 300 fois. Donc ça c'est quand même joué. On avait tous 25 ans et je me disais que ça allait être ça un peu les spectacles que j'allais créer. Et puis il y a eu le porteur. Qui a été un tel succès que en fait j'ai suivi le virage, quoi. Il y a quelque chose de bon, bah ce que je raconte peut intéresser des gens, donc je vais continuer à raconter des histoires et je sens bien que c'est quelque chose, c'est la raison pour laquelle j'ai entre guillemets trouvé un public. Et que si aujourd'hui demain je faisais du stand-up, déjà je suis pas sûr d'en être capable, et ensuite je pense qu'il y aurait quand même un petit côté un peu déroutant de la part de gens qui suivent mes spectacles et qui viennent voir mes spectacles avec certaines entre guillemets attentes. Alors il faut à la fois surprendre, il faut à la fois passer de Edmond à une histoire d'amour qui n'a rien à voir, ou Intramuros, ou mais en même temps il y a une fondamentale qui est que je pense que avant tout on vient écouter des histoires.
Et pourquoi tu penses que les gens ils ont accroché à ce que toi t'avais à dire?
Alors ça c'est marrant, mais c'est un truc, c'est une question qu'on me pose tout le temps, genre mais comment t'expliques que ça marche, quoi. Mais en fait c'est pas à moi d'expliquer ça, c'est aux gens qui viennent voir mes spectacles et c'est à eux qu'il faut demander pourquoi est-ce qu'on a envie de venir voir des spectacles. Moi tout ce que je fais c'est créer, en fait. On peut pas expliquer son succès, on peut pas expliquer les raisons qui font que ça marche. Nous on fait quelque chose qu'on a envie de voir. Maintenant c'est un exercice assez fastidieux de rétro-analyser un succès de quelque chose qu'on a fait ou d'une raison pour laquelle les gens ça les intéresse. Mais je pense que d'une certaine manière j'ai commencé à faire des spectacles qui, c'est un peu l'histoire de l'offre et de la demande. Il y avait pas trop de cette offre là. C'était une offre un peu à mi-chemin entre un théâtre on va dire public et privé. Et c'était un théâtre hyper narratif. Donc où tout était au service de l'histoire, sans tête d'affiche, avec une troupe, donc un théâtre de troupe, et avec une écriture très cinématographique, voire sérielle. ce qu'on ne trouve pas beaucoup au théâtre, dans le paysage théâtral français. Et contrairement à un film ou à une série, ben nous, au théâtre, on n'est pas en concurrence avec Netflix. Parce que, en fait, le théâtre, c'est un circuit local. Mmh. Donc, quand on sort d'une bonne histoire qui est suffisamment forte ou différente pour être très originale, et ben en fait, le seul moyen de voir cette histoire, c'est d'aller au théâtre, d'acheter sa place et d'aller au théâtre. On peut pas dire, bah, je le verrai à la télé dans deux ans.
Il y a aucune capta de tes spectacles.
Bah, il y a des captas, mais ça veut pas dire qu'on va les diffuser, quoi.
Oui, c'est-à-dire des captas de travail, quoi.
Voilà, ouais. C'est ça. Et puis c'est pas le but, en fait. Mm. Même s'il y avait des captas, c'est pas. On regarde pas du théâtre à la télé, quoi. C'est même si on essaye d'eux, mais c'est pas le ouais, but c'est du pas théâtre. C'est pas. On retrouve pas du tout les sensations qu'on a dans une salle, dans ce petit moment Et donc, voilà. Et donc, du coup, il y a cette évidence qui est que, ben, quand on a une bonne histoire, on a envie de la partager avec des amis, avec des gens, avec des gens qu'on aime. Et donc, on y retourne. Mmh. Et c'est comme ça un peu que le spectacle commence à marcher. Quoi.
Pourquoi t'aimes autant l'éphémère?
L'éphémère?
Ouais. Genre le théâtre, ben justement, on est obligé de venir et ça n'existe qu'un temps. Et...
Bah, ça existe qu'un temps, mais ça peut durer longtemps.
Oui, mais pour les spectateurs?
Je pense que c'est une fausse perception de dire que le théâtre c'est pas le théâtre qui est tant l'art de l'éphémère que ça. Les acteurs de théâtre, oui, parce que quand ils jouent une fois et après cette captation elle n'existe que dans la mémoire des spectateurs, contrairement au cinéma. Mais je veux dire on joue encore des pièces de Shakespeare aujourd'hui, alors que les films du début du siècle, ben dernier on les oublie.
Oui, mais ils continuent à exister. Quoi qu'il arrive.
Par la création, mais ce que je veux dire, c'est que l'écriture théâtrale, elle persiste. Elle peut persister parfois plus que le cinéma. Parce que c'est quelque chose qui se renouvelle, qui se rejoue, qui se réécrit, qui se retravaille. Mmh. On joue encore Cyrano de Bergerac, alors que les films ont une durée de vie très limitée dans le temps, comparativement à certaines œuvres théâtrales.
Tu demanderas à ton frère.
Ah, Philippe Lachaud.
Philippe Lachaud.
Ouais, je dirais. Mais après, ça m'empêche pas de faire des films aussi, mais. Et puis j'aime la sensation qu'on éprouve au théâtre, même en jeu, hein, même en tant que comédien. Moi, j'aime la scène, j'aime entendre le public, j'aime sentir le public, j'aime avoir les réactions en direct. On est porté par quelque chose, on est dans un moment un peu magique. On raconte une histoire. Il y a une forme de communion quand ça fonctionne, bien sûr, hein, avec la salle. On entend les gens rire, pleurer, être avec nous. C'est une sensation extraordinaire qu'on n'a pas quand on fait un tournage, évidemment. On l'aura peut-être a posteriori, mais quand on joue devant des techniciens, quoi. Mmh. On a d'autres super, super émotions, mais c'est autre chose. Et moi aussi, en tant qu'auteur, créateur, ça c'était la version de l'acteur, mais en tant qu'auteur, créateur, il y a le côté, on a l'art de la convention. On a ces gros avantages sur le cinéma, c'est qu'on peut faire des choses assez, on peut raconter des histoires merveilleuses, sans budget. Donc il suffit pour ça d'utiliser une sorte d'inventivité théâtrale et on n'a pas besoin d'aller décrocher 10 millions d'euros et donc on n'a pas besoin d'aller demander à Gérard Depardieu ou n'importe qui, on peut créer notre monde juste sur un plateau dans une salle avec des acteurs et trois bricoles quoi. L'imaginaire ça coûte pas cher à faire, donc c'est pas mal.
Pourquoi t'as voulu adapter une histoire d'amour? Parce que Edmond ça devait être un film à la base et une histoire d'amour.
Une histoire d'amour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on l'a créé début 2020, en janvier 2020, et dès la première, tous mes amis du milieu cinéma etc. m'ont tous dit mais c'est un film, faut vraiment que t'en fasses un film. Et au début, moi, c'était pas quelque chose qui était prévu, donc je me disais oui, bah peut-être dans un avenir lointain, peut-être j'y penserai. Mais bon, on me dit souvent ça de mes spectacles aussi. Donc, mais là particulièrement, il y a eu quelque chose de c'est un film. Et puis 2 mois plus tard, il y a eu le confinement. Donc je me suis dit bon bah et si j'en faisais un scénario pour voir quoi. Et donc j'ai commencé à l'adapter en scénario et puis j'ai commencé à travailler dessus. Et puis au bout d'un moment, je l'ai fait lire et puis finalement, bah on a trouvé des financements et on est parti. En tournage assez vite. Et puis au départ, il y a eu ce truc de me dire bon, si je le fais, je m'en fous. En fait, je m'en fiche de le faire de manière entre guillemets bourgeoise. C'est-à-dire une manière bourgeoise de le faire, ce serait bon bah on va proposer le rôle des deux meufs à Virginie Elfira et Marion Cotillard, espérer qu'elles acceptent, décrocher un budget de 7 ou 8 millions d'euros, faire le film de manière confortable, et puis et on le sortira et on verra bien. Et on s'est dit mais ça a pas grand intérêt de faire ça en fait. Enfin, oui, super pour le plaisir de faire un film, mais ce serait beaucoup plus excitant de pouvoir le monter avec l'équipe de création, c'est-à-dire avec ces actrices Juliette, Marika, Pauline qui ont créé le rôle et qui sont pas connues du grand public et arriver à faire ça et le faire entre nous quoi. Et ça nous paraissait un challenge pour le coup vraiment intéressant. Et c'est presque autant pour ça que pour vraiment faire le film qu'on est parti un peu dans cette idée-là. Et on l'a pas dit aux actrices. Et on leur a fait croire qu'on allait prendre d'autres actrices. Et puis on est parti en financement et on a réussi à le financer comme ça. Et à partir de là, c'était super quoi. On l'a fait entre nous quoi.
Pourquoi vous leur avez pas dit?
Pour pas leur donner des faux espoirs qu'on n'arrivait pas à monter le film quoi. Parce que c'est pas évident de monter un film.
Ok.
Il se resserre du thé.
Quand tu disais tantôt son travail sur la structure et tout, comment tu bosses du coup? Parce que j'ai entendu que tu mettais beaucoup genre des idées en stand-by, t'y reviens, t'arroses un peu l'idée, puis tu reviens plus tard et tout. Et puis une fois que tu commences vraiment à te dire, ok, là je me... Déjà, à quel moment est-ce que tu te dis, maintenant, c'est le bon moment pour ce projet-là? Est-ce que des fois, t'as cru que c'était le bon moment, en fait, c'était trop tôt?
Ou trop tard.
Ah oui?
Ouais, ça arrive aussi de se dire bon allez je me lance et puis en fait on commence et on fait j'ai plus envie.
Ah.
Ça fait plus partie de mon momentum quoi.
Ok.
Il y a longtemps je m'étais mis en tête d'écrire une série bien avant Netflix. Il y a peut-être plus de 10 ans peut-être. Et j'avais commencé à me dire je vais faire une série un peu visionnaire pour internet. C'est-à-dire que je vais
faire une série pour internet, cette phrase déjà.
Ouais, genre je vais faire une série qui va être diffusée sur internet. Ouais. Et c'était une époque où il y avait pas internet. Enfin, il y avait internet mais il y avait pas Netflix, il y avait pas de plateforme, il y avait pas vraiment de possibilité de raconter quelque chose sur internet. Aujourd'hui, ça tombe sous le sens, mais à l'époque, je me suis dit tiens, je vais le faire moi-même. Je vais tout réaliser, je vais le faire, je vais le monter ça part de... Moi, déjà à 18-19 ans, j'avais réalisé un long métrage comme ça à l'arrache avec...
Un long ?
Ouais, avec, okay. Avec une caméra tri-CCD, donc il y a 20 ans, avec, on avait fait 28 jours de tournage, on avait récupéré une sorte de polar, on avait récupéré des apparts, des bagnoles, des machins, puis on était partis en tournage, quoi, et puis j'avais réalisé, c'est nul, hein, mais au final, j'ai quand même fait un film, quoi, qui est avec 3 personnes dans l'équipe, quoi. Vraiment, c'était mes 50 acteurs, etc. Donc, j'ai toujours eu cette espèce de principe de on va le faire, quoi.
Ouais.
Et là, donc, je commence à écrire et puis, au final, j'ai écrit 800 pages de scénario et j'ai écrit une saison entière.
800 pages.
Ouais. J'ai écrit une saison de 20 épisodes de 30 minutes, quoi. Et c'était une histoire d'une famille qui s'appelait les Martins et en gros une sorte de famille parfaite dont on se rendait compte que chacun des membres en fait était un peu taré et puis partait complètement en vrille etc et c'était une sorte de saga un truc un peu à l'American Beauty un monde parfait qui se fissure quoi et avec beaucoup d'humour de théâtralité etc et voilà je me retrouve avec ce truc en me disant je vais passer un an à le faire. Je vais faire ça avec ma petite caméra 3CCD pour au final avoir un truc dont je serais pas vraiment très content du résultat. Et puis je commence à le faire lire à des potes qui me disent non mais franchement c'est bien, tu devrais le faire lire à des prods télé. Et à l'époque je devais avoir 24 ans, 25 ans, un truc comme ça. Donc je dis je vais voir. Et donc je commence à l'envoyer un peu à des prods de télé avec qui j'avais bossé moi en tant qu'acteur. Leur disant j'ai ce projet, je vous envoie 3 épisodes, ça vous intéresse. Et puis petit à petit je commence à avoir des contacts, les gens me répondent un peu, et puis il se trouve qu'à ce moment-là il y avait France 2 qui faisait un appel à projet pour Sika. Enfin bref, on fait un peu le tour des chaînes, on l'envoie, je trouve une prod qui est intéressée, qui prend les droits dessus, qui dit vas-y essayons quoi. Bon, on l'envoie à toutes les chaînes qui disent non concrètement, mais quand même il y a un petit intérêt qui est suscité de France 2 qui dit c'est clairement pas notre ton, c'est clairement pas notre cible, mais on décèle des qualités d'écriture si vous voulez nous renvoyer des trucs. Bon, voilà, et l'histoire en reste là. Sauf que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des spectacles, j'ai commencé à faire des courts-métrages, des films, des machins. Et donc, au fur et à mesure où les années passaient, je rencontre régulièrement des producteurs et à chaque fois, je leur parlais notamment de cette série. Ils me disaient, tu veux pas me faire lire? Je disais, oui. Et je faisais lire et ils disaient, mais purée, mais c'est super, il faut le faire, en fait. Et donc, à chaque, tous les deux ans, en gros, un prod reprenait les droits de cette série déjà écrite et refaisait le tour des télés. Et puis, en fait, sans changer un mot de la série.
Et parce que le nom avait grandi.
Voilà, comme moi, en fait, on commençait à me connaître un peu plus. Ben, de temps en temps, il y avait des chaînes qui commençaient à être intéressées par cette série-là. Mmh. Et puis, au final, on en arrive à un moment où il y a une chaîne, notamment, qui dit non, mais ça peut nous intéresser, mais il faudrait peut-être réécrire, machin, ceci, cela. Et vraiment, je me suis dit, j'ai plus envie.
Et lâcher tous les droits, dire prenez ça, faites-en ce que vous voulez.
Non, parce que ça vient avec moi. Enfin, il y a un truc de, on achète aussi l'auteur, quoi. Il y a pas juste, c'est mener un projet, c'est une tanasse, quoi. Et voilà. Et suite à ça, mais ça a été, je faisais d'autres choses hein, en même temps, hein, mais il y avait toujours ce truc qui traînait, quoi, puisque c'était déjà écrit, quoi. Et puis suite à ça, on s'est dit bon bah peut-être qu'il faut en faire un long métrage, mais un long métrage fou, quoi, parce que 800 pages. Donc peut-être qu'il faut en faire un long métrage qui ferait 300 pages de scénario, qui durerait 3 heures, et ce serait un film fou à financer, pourquoi pas, il faudrait inventer le cinéma, etc. Et je me souviens m'être retrouvé en tournage à un moment où j'avais un peu du temps libre en tant qu'acteur, quoi. Et je ressors mon truc et je commence à rentrer dedans et à couper, et au bout d'un moment j'ai fait non, mais j'ai plus envie de raconter cette histoire. C'est passé, quoi. Ça appartenait à mon moi de 25 ans et maintenant c'est plus moi, quoi. Donc j'ai rangé le projet, il a jamais existé, quoi. Et inversement, évidemment, il y a d'autres trucs où je me dis bon bah ouais, non, ça, une histoire d'amour par exemple, c'est assez marrant parce que c'est une histoire en trois temps, en fait.
Même dans les interviews, tu fais des structures.
Ouais. C'est comme ça, hein, je raconte des histoires. Au départ, ça commence avec une vraie histoire d'amour. Donc j'étais dans une histoire d'amour. Et puis ça s'est terminé, elle est partie, sans vraiment de raison, quoi. Donc je me disais, bon, bah, ça va sûrement repartir à un moment. Je suis un peu en pause. Je me retrouve un peu célibataire en me disant, bon, bah, elle va revenir à un moment, quoi. Et là, en fait, je prends ça de manière très philosophe, parce que j'étais, je pense, complètement dans le déni. Et je commence à écrire un truc, plutôt comédie, pour le coup vraiment très comédie, une sorte de, puisque je me retrouve célibataire, et donc je commence à écrire une histoire de célibataire, d'une nana, en gros, qui se met sur les réseaux sociaux, qui se met sur Tinder, tout ça, et puis un peu son parcours. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un bon pitch, je pense, mais je commence à écrire cette histoire très légère en me disant voilà, pour le film ou pour Netflix, j'en sais rien, ça fera un chouette film, avec notamment Marina Rollman, que je vais chercher pour m'aider à l'écriture. Et puis là-dessus, en plein milieu de ça, j'écris une cinquantaine de pages et là j'apprends que bon bah la fille qui m'avait quitté, en fait, m'a quitté pour un mec. Et donc forcément là je comprends que l'histoire est vraiment finie j'ai un peu le cœur brisé et je me dis bon, en fait, je ne peux plus écrire cette histoire. Je ne peux plus écrire de comédie là maintenant. C'est plus possible. J'ouvre mon ordi, je suis incapable de d'écrire sur un sujet léger. Et là, je repense à une histoire d'amour qui était un projet que j'avais un peu dans la tête, mais que j'avais un peu dans la tête de côté lointain, en me disant bon bah peut-être qu'un jour j'écrirai cette pièce, mais je sais pas si c'est le moment. Et ben là, c'était le moment, en fait. Là, tout à coup, j'étais exactement au bon endroit pour raconter qu'est-ce qu'on traverse quand on perd, quand on est quitté, qu'est-ce qu'on traverse quand on vit une rupture, quels sont les sentiments qu'on a, etc. Et du coup, ben c'est cette écriture, elle a été évidente et c'était le bon moment pour.
Et ça a été assez fulgurant comme écrit.
Oui. J'étais en tournage et je suis parti à Malte. Et j'étais dans une chambre d'hôtel où il n'y avait pas grand chose à faire, il faisait 40 degrés dehors. Et j'ai écrit un premier jet en 3 jours. Et vraiment, 3 jours plus tard, je l'envoie à mon associé, Benjamin Belcourt, mon producteur.
Et qui t'avait déjà fait le porteur d'histoire, il me semble.
Qui a produit tous mes spectacles, en gros. Et avec qui on était sur Kabul Kitchen ensemble. Et du coup, il me dit oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux faire? On était en août. Je dis je crois que j'aimerais bien le monter et peut-être bien jouer dedans, quoi. Il me dit d'accord, mais tu vois ça quand? Je dis le plus tôt possible, parce que je suis pas sûr que dans un an j'aurai encore envie de le jouer.
Alors
qu'au
théâtre, les délais sont méga longs. pour programmer une pièce, non ?
Voilà, parfois. Et puis bon, parfois, ça peut aller vite. Donc là, en l'occurrence, on a appelé le directeur de la Scala, qui on voulait faire un projet ensemble depuis longtemps. Et donc, Benjamin lui envoie la pièce en lui disant, bah écoute, Alex vient d'écrire ça. C'est vraiment, ça sort du four, quoi. Et donc, Frédéric et Mélanie Biessi ont lu. Et une heure après, ils envoient un texto en disant, bah, janvier. Et donc voilà, on était en août, et donc en janvier, on a ouvert à la Scala, quoi. Et donc des fois c'est le moment, quoi. Mmh. Des fois c'est l'opportunité qui fait le moment, des fois c'est le moment parce qu'on sent qu'on a envie de raconter cette histoire. Des fois ça fait 15 ans qu'on a envie de raconter cette histoire et enfin on peut le faire et donc on y va. Les producteurs, ça faisait 10 ans que je voulais le monter, quoi. Mmh. Enfin que je rêvais de le monter. Mais c'est seulement quand j'en suis arrivé au moment où...
Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit de jouer dedans?
À aucun moment, quoi. Mais à aucun moment. Non, par contre, j'ai proposé à Philippe Lachaud, qui a pas voulu.
Oh putain.
Ouais, malheureusement.
C'est plus que c'était la famille.
Non, je pense pas qu'il y a de rôle pour moi, en fait. Parce que c'est une grosse tanasse, quand même, de jouer dedans et
ouais,
de mettre en scène. Hein.
Alors oui, mais surtout... tout ce qu'ils ont dû apprendre, la durée des répétitions et le nombre de personnes impliquées. Il paraît que t'es un grand fan de claquettes.
Je suis un grand fan de comédie musicale déjà et clairement de claquettes. Ils ont bien bossé, quoi. Mmh. Mais ils sont très doués aussi. Hein. C'est tous des artistes du musical. Ils ont tous fait les productions de Chicago, Stage, enfin plein de trucs de fou, quoi. Donc c'est vraiment des gens qui ont l'habitude d'apprendre très très vite. Mmh. Ce que moi je serais incapable de faire. À part un, Régis Vallée, qui joue Franz Lipkind, l'homme au pigeon, et qui est mon meilleur ami et mon acteur de fétiche depuis toujours, quoi. Et qui pour le coup est bilingue en allemand, etc. Et je savais qu'il avait le physique, etc. Mais qui n'est pas un artiste de comédie musicale, donc il a dû bosser 4 fois plus que les autres. Ouais.
J'y suis allée hier et je m'attendais pas à voir un pigeon faire un salut nazi.
Ouais.
C'est discret.
Ouais,
c'est
Adolf. Ouais, on a. Moi, bon, j'adore les pigeons. C'est vraiment. Je suis tellement content de ce rendu marionnettiste.
Mmh. Et question con, mais je me suis posé la question. Qui a traduit les textes? Enfin, les chansons?
Alors, la traduction, c'est de Nicolas Angel. On a fait un casting de traducteurs, en fait, à l'époque.
OK.
On a dit, bon, voilà, on a cherché, on a eu plusieurs traducteurs qui ont bossé sur quelques scènes et quelques chansons. Et globalement, vraiment, c'était que des super traducteurs. Enfin, on a eu vraiment des bons résultats. Il n'y a pas eu une énorme dichotomie. Mais j'ai aussi bossé, avec celui avec qui je me suis dit que ça allait être le plus facile de travailler avec moi. Parce que, moi, je suis bilingue, ma mère est anglaise, je suis à moitié anglais, je parle très bien l'anglais. Et donc, je savais qu'au final, j'allais proposer, remodeler en travail, en répétition, en ceci, en cela. Mmh. Et donc, il fallait quelqu'un qui soit apte à accepter de tout le temps se remettre en question et de tout le temps repartir et dire, bon, vas-y, on réécrit cette phrase, on réécrit ça. Et c'est ce qu'on a fait vraiment jusqu'à la fin, quoi. Mmh. Et pour les acteurs, ça a été aussi, pour tout le monde, ça a été compliqué parce que d'habitude, ils ont l'habitude d'arriver et que le texte est prêt et puis ils ont appris leur partoche et là, vraiment, en travail, tout le monde, on disait genre, ah, cette phrase, on peut trouver mieux et on changeait la phrase alors que les acteurs ont déjà appris la phrase d'avant. Mais c'était passionnant comme travail, quoi.
Est-ce que le fait que tu sois relativement control freak, ça rassure les gens parce qu'ils voient que tu sais où tu vas, ou est-ce que ça les angoisse un peu, justement?
Ah bah, je pense que ça les rassure quand même. On a toujours plus tendance à avoir confiance en quelqu'un qui semble savoir où il va quand même. Je pense.
Oui.
Après, faudrait leur demander, mais ouais, un acteur, quand il voit que le metteur en scène, il ne sait pas du tout ce qu'il fait, c'est pas très rassurant.
Ouais. Tu joues encore beaucoup là en télé?
Non, enfin, ça m'arrive. Télé, ciné, de temps en temps, je fais des petites... Ouais, je sais pas, j'aime bien, en fait. C'est-à-dire que je sais que c'est pas genre le truc le plus important de ma vie, mais c'est plutôt cool de se retrouver sur un projet et de mettre son cerveau un petit peu en off et de pas avoir la responsabilité de tout le plateau et tout le film et tout le montage et juste de venir et de jouer, de prendre du plaisir à jouer et à rencontrer des partenaires et avoir des surprises et de pas avoir tout prévu, c'est pas mal. Comme les vacances, quoi. C'est sympa, ça fait du bien de juste déconnecter.
Tu n'es pas censé trouver que ce sont des vacances.
De jouer ?
Oui.
Mais si, c'est des vacances, c'est un métier merveilleux. En fait, ce qui est compliqué quand on joue, c'est pas de jouer, c'est entre deux projets, c'est l'attente, c'est l'humiliation quotidienne du casting.
De dépendre du regard des autres uniquement, quoi.
Oui, de est-ce que je vais être désiré l'année prochaine ? Est-ce que je vais réussir à avoir du travail ? Est-ce que je vais réussir ? Mais un comédien qui joue, il est heureux, en fait. Mm. Je dis pas que c'est hyper facile, évidemment, qu'il y a du travail, évidemment, qu'un comédien qui joue la même pièce 100 fois, 200 fois, 300 fois, il faut y retourner, il faut avoir cette usure, il faut ceci, il faut cela, mais c'est quand même génial, c'est un métier de passion, quoi. Et en plus de ça, c'est même pas un métier où il faut avoir fait 20 ans de base de classique avant de jouer, quoi.
Mmh. Toi, t'as fait des maths de base ?
Je fais des maths vite fait quand même. J'ai fait un bac S, quoi. J'ai fait une fac, j'ai fait 6 mois de maths.
Ok, et puis tu t'es rendu compte que tu voulais être comédien ?
Je pense que je le savais avant, mais juste, j'ai fait les 6 mois réglementaires pour rassurer ma mère. Et puis après, une fois qu'elle... En fait, ma mère, elle a vu mon premier... je pense qu'à 18 ans, j'ai trouvé un agent et j'ai commencé à faire des castings, quoi. Et la première fois que j'ai fait un tournage, j'ai montré le chèque à ma mère. Et elle m'a dit, bon, bah ça va, tu peux arrêter la fac, c'est bon.
Et voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'animait là-dedans ?
Dans le fait de jouer ?
Ouais.
Bah, je sais pas, je me sentais à ma place, quoi. Il y avait un truc où... J'ai fait le club théâtre du collège lycée à Jules Ferry à Paris et chaque année on montait une pièce et pour moi c'était vraiment le meilleur moment de l'année, quoi. Il y avait un truc d'évidence d'aller jouer, je me sentais hyper à ma place, quoi. Je prenais beaucoup de plaisir à jouer et en fait c'est marrant, mais quand j'ai commencé à faire de la mise en scène, je devais avoir 20 ans je pense, un truc comme ça, quand j'ai monté mon premier spectacle, mais dans ma tête ça me semblait déjà très tard. Hein, dans ma perception du temps à l'époque, je me disais, j'ai déjà 20 ans et je suis pas encore Leonardo DiCaprio, quoi.
Pff, la honte.
Qu'est-ce que je fais ? Bon, je vais monter un spectacle. Et bon, évidemment, avec du recul, je me dis, ah ouais, quand même, je suis parti à Avignon à 22 ans avec un spectacle.
Mais t'as l'air d'avoir un rapport assez curieux au temps. T'as l'air d'être absolument obsédé par le rythme, autant dans tes pièces que dans ta vie.
Ouais, mon ami Benjamin dit que j'ai une hyper... qu'est-ce qu'il dit ? Une hyper-conscience de la mort.
Nickel. Ok, et du coup, tu veux faire le plus de trucs possible ?
Ouais, en tout cas, c'était le cas jusqu'à maintenant, ouais. Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose de... C'est pas tant faire le plus de trucs, c'est... ça dépend aussi d'où on vient, le milieu d'où on vient, nos origines, nos machins, ce qui nous drive, quoi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose où, très tôt... enfin voilà, j'avais pas des parents qui pouvaient me payer un studio, j'avais pas une famille qui pouvait me trouver des passe-droits, je veux dire, je suis parti de rien, quoi. Il y avait vraiment un truc de bon, si j'ai envie d'y arriver, il va vraiment falloir tout donner dès maintenant, quoi. Mais il va falloir que je mette tout, si j'ai envie de jouer, si j'ai envie d'en faire mon métier, si j'ai envie qu'il se passe quelque chose à la hauteur de ce que j'ai envie qu'il se passe, c'est maintenant, c'est pas plus tard, quoi.
Pourquoi t'as été touché particulièrement par Cyrano, par Edmond, du coup, parce que t'es l'inverse, en fait. Parce que Cyrano, il ose pas et donc il se rend malheureux. Toi, c'est l'inverse.
Oui, mais il est sublime.
Oui.
Cyrano, il y a cette phrase qui dit, qui m'a particulièrement touché quand j'ai lu la pièce pour la première fois, je pense. Un moment, donc c'est dans le premier acte et il vient de faire annuler la représentation et il y a Lebray qui lui dit « Mais où te mènera la façon dont tu vis ? Quel système est le tien ?» Et Cyrano dit « J'irai dans un méandre, j'avais trop de parties, trop difficiles à prendre, j'ai pris, lequel, mais le plus simple, et de beaucoup, j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout. »
Mais il est quand même malheureux.
Oui, après, parce qu'il a un gros nez. moi, j'ai pas de gros nez, tout va bien. Enfin, j'ai un nez conséquent, mais... Non, mais je veux dire, il est malheureux, il est pas malheureux parce qu'il est admirable, il est malheureux parce que il aime quelqu'un qui ne l'aime pas en retour, en tout cas, le pense-t-il. Il est malheureux parce que...
Oui, mais il y a cette notion de ne pas oser, de ne pas aller chercher ce dont on a envie.
Oui, mais en contrepartie, il ose plein de choses. Il écrit, il se bat, il avance, il sur tous les domaines, en fait, il est parfait.
Oui, mais pas sur celui qui...
Nous, on l'aime parce qu'il est triste, mais à côté de ça, c'est un héros. Je veux dire, il est imbattable. Il fait des choses que personne ne pourrait faire. Il va dans le camp ennemi récupérer le foulard qu'a perdu de Guiche. Il traverse les frontières, il revient, c'est un héros, quoi. Il a quelque chose d'incroyable, mais c'est un héros à la française, parce que c'est un loser, malgré le fait que ce soit un héros.
Tu penses que c'est vraiment français, ça, de faire des...
Hyper français. On aime les perdants magnifiques, on aime les contestataires. On aime les gens qui sont pas dans le système, les gens qui sont juste des gens qui ont de l'argent et qui gagnent et qui ben, on les déteste. On n'aime pas le succès éclatant sans... On n'aime pas ça, on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent, on n'aime pas... Aux États-Unis, on a un truc où on révère les gens qui gagnent. Hein? Même quand on regarde nos héros, c'est des gens qui viennent... qui ont tous galéré, qui viennent d'un milieu modeste. Enfin, je veux dire, les Zidane, tout ça, c'est pas des gosses de riches, quoi.
Ouais, mais aux États-Unis, il y a quand même beaucoup culture du anti-héros aussi.
Bah, pas trop, hein. Quand on regarde les Avengers, c'est pas très anti-héros, quoi.
Oui, c'est pas non plus là, ouais, c'est pas la ref.
Je veux dire, les sportifs, tout ça, c'est plus tout. En fait, aux États-Unis, on érige notre fortune. Je veux dire, il y a vraiment.
Oui, il y a un truc de méritocratie beaucoup plus développé, mais.
Ouais, en France, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est suspect. Il y a quelque chose où tout de suite, ça, c'est suspect. On aime les anti-héros, on aime les Cyrano, on aime les gens qui sont brillants, mais à qui il manque quelque chose, qui sont malheureux, et on les aime, on les aime profondément.
C'est quoi qui te manque à toi?
Je sais, déjà, je pense pas être Cyrano. Hein.
Non, mais si tout. Enfin, tu vois, parce que sur papier, t'as tout qui.
Ah ben,
d'ailleurs,
je
serais pas surpris si un jour on trouve genre des animaux morts dans ta cave, tu vois. Il y a un truc qui doit être. Il doit y avoir un truc.
Je pensais pas que ce serait ça que. qu'on y ait réacquiré la discussion,
Lachaud,
mais d'accord.
Accroché dans ta cave.
Des animaux morts dans ma cave, effectivement. Non, mais typiquement, si tu veux, moi, il y a un truc où j'ai très bien compris que dès que ça a commencé un peu à marcher pour moi, que c'est hyper important de désamorcer le sentiment un peu de défiance et de jalousie que ça peut provoquer, en fait, tout simplement. Il y a une nécessité d'humilité, quoi, c'est tout. Il y a un truc un peu... plus ça marche, plus il faut être discret, je pense. C'est plus ça, en fait. En tout cas, dans notre société, dans notre esprit, il y a quelque chose là-dessus, quoi. On respecte les gens qui sont humbles, on respecte la discrétion, on respecte... on n'a pas trop le bling en France. Hein? Alors qu'aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, quelqu'un qui achète une bagnole à 10 millions de dollars, on fait « Ah, elle est belle ta bagnole !» En France, on dit « Ah, il doit avoir une petite bite. Hein. »
Oui.
Il y a un truc comme
c'est
ça,
vrai.
Quoi.
C'est vrai.
Ce que je trouve assez joli. C'est l'une des choses qui fait notre particularité culturelle, quoi.
Tu disais que... jusqu'à maintenant, t'avais eu ce truc d'envie de faire tout genre avant qu'il soit trop tard. Hein. Et pourquoi avant maintenant ? C'est quoi le déclic ?
Non, mais parce que là maintenant, je suis dans ma crise de la quarantaine, donc c'est pas les mêmes. C'est
donc
pas
t'as une grosse bagnole.
J'ai pas une grosse bagnole. Non, j'ai une Twingo. Mais c'est un petit moment de réflexion quand même sur bon bah qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. J'ai ce truc de bon bah j'ai un peu c'est pas atteint mes objectifs parce que c'était pas du tout les objectifs que j'avais, mais j'ai suffisamment apaisé la soif de reconnaissance du jeune de 18 ans que j'étais, quoi. Ça suffit maintenant, c'est bon, j'ai eu assez d'honneur et de succès et de joie et pour pouvoir dire bon bah voilà, c'est bon, je ça c'est fait. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je peux continuer à faire sans devenir un vieux con et je veux dire j'ai pas la folie des grandeurs, en fait, j'ai pas envie de mettre en scène la cérémonie d'ouverture des JO, il y a pas ce truc là, il y a plus un truc de bon bah à quoi je vais m'atteler maintenant que j'ai pas encore fait et qui pourrait m'intéresser, m'intriguer, sans que ce soit un truc de mégalomanie galopante, quoi. Qu'est-ce que ça va être le prochain truc? Je sais pas. Je vais continuer à faire du théâtre, bien sûr. Mais là, bon, bah, j'ai 6 pièces à l'affiche, donc il y a un moment, faut se faire oublier un petit peu, hein. Faut se faire désirer, faut prendre le temps de vivre aussi, prendre le temps de vivre, quoi.
Et t'as pas encore trouvé ce dont t'avais envie maintenant?
C'est-à-dire mon prochain projet, quoi.
Oui.
Bon, il y a des possibilités, mais non, pour l'instant, je sais pas trop. Après, je viens de lancer un spectacle, j'ai un film qui arrive, ça va.
Oui, mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'en 2019, t'avais sorti un roman et un film, j'étais comme, oh, come on.
Ouais, mais bon, le roman, j'ai passé 3 ans à l'écrire, donc c'était plus un truc de... Ça, il se trouve que ça sortait en même temps, mais je les ai pas fait exactement en même temps, quoi.
Mais c'était pas curieux pour toi, qui, enfin, je suppose que tu vois quand même un peu les histoires en images, de devoir écrire un truc.
Bah si, mais c'était justement un exercice que j'avais pas. Non, et je, non, moi je vois pas du tout les histoires en image. Je suis pas du tout quelqu'un de l'image. Je suis vraiment quelqu'un de la narration. Je suis nul en dessin. Vraiment, j'ai pas le sens de l'esthétique, quoi. C'est quelque chose. Je me projette pas du tout visuellement. C'est vraiment ce que je raconte qui compte. Tout est au service de l'histoire.
Et tu vois pas un peu les scènes au moment où tu les écris
Un peu, mais c'est pas un truc visuel. Il y a des créateurs qui sont très ils voient le type de caméra qu'ils vont prendre quand ils vont filmer, ils voient la couleur que va avoir la scène. Moi, je suis pas incapable de me projeter là-dedans. Moi, c'est pour ça que le rythme est si important, c'est pour ça que la musique est si importante, c'est pour ça que parce que c'est un truc de narration. Moi, je ne vois, je mes spectacles, je peux les diriger à l'oreille. C'est-à-dire que si mes acteurs, si je viens voir une de mes représentations, je peux me mettre dans une loge, allumer les retours, écouter le spectacle, et je donnerai exactement mes notes, elles seront les mêmes que si je le voyais, j'étais dans la salle, quoi. Il y a un truc vraiment de tout se passe dans le récit, quoi, dans la façon de raconter. Donc le roman, ça pour le coup, ça allait sous le sens, même si bon, il est très cinématographique, hein, évidemment, puisqu'à la base c'était une série dans ma tête, donc c'est une série que je me suis dit bon, ça va coûter un peu cher, je vais peut-être en faire un roman, comme ça au moins ça me coûtera moins cher. Mais après l'expérience du roman a été aussi intéressante, déjà par la durée, la complexité du truc, parce que quand même...
C'est une petite brique.
Oui, mais surtout, il y a quelque chose où, quand j'écris une pièce, en fait, je sais que c'est pas un produit fini. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris, je sais que ça va continuer à être réécrit, je sais qu'au plateau, je vais continuer à travailler dessus, je vais continuer à faire des trucs. Et quand j'écris un roman, ce sera un produit fini. Donc, en fait, une fois qu'on a fini, on a fini. Donc, quand je me relis et que je me dis, cette phrase, elle est pas terrible, quand c'est une pièce, je me dis, je verrai ce que ça donne avec un acteur qui l'a dit et on la réécrira au moment où il la dira. Mais quand c'est un roman, il y a pas. Donc si je me dis cette phrase elle est pas terrible, je m'ennuie un peu, j'ai pas le choix, il faut que j'y retourne et que j'écrive ma phrase et je réécrive et que j'écrive jusqu'à ce que j'ai la sensation d'une fluidité de lecture, quoi. Et la deuxième chose, c'est la solitude une fois que tu sors ton roman, quoi. C'est-à-dire que et moi je suis quand même quelqu'un, j'aime la troupe, j'aime l'équipe, j'aime être entouré, j'aime avoir des amis autour de moi, et là vraiment il y a ce truc de tu viens défendre ton roman. Mais est-ce que ça doit être terrible quand on fait du seul en scène? Moi je deviendrais fou. C'est l'un des trucs qui fait que je pourrais pas, quoi. Enfin ça me déprimerait trop de partir en tournée avec mon régisseur, quoi. C'est vraiment ça, rien que d'y penser.
Ouais, il faut que ce soit un ami, quoi.
Ah ouais, carrément, ah quoi, ouais. Hein, parce que et puis même
sinon c'est lent.
le public est dur ce soir, puis t'es tout seul sur ta scène en train de galérer avec ton public. Au moins quand t'as du monde sur scène et que tu joues avec des gens, tu sors, t'es en coulisses, tu fais ils sont durs, hein. Ouais, c'est, puis après tu vas dîner, quoi.
Ouais,
ça va, quoi. Il y a un côté troupier qui est plutôt agréable là. Oh là là, l'enfer. Et donc voilà, le roman, c'est pareil, quoi. On présente son roman. Ce qui est drôle, c'est quand on a une bonne nouvelle et que t'as ta bonne nouvelle, mais ça doit être pareil aussi seul en scène, tu vois. Bon, t'as ta prod un peu, mais tu vois, t'as un bon article ou une bonne nouvelle,
comme,
et tu reçois
yay!
Le truc, tu fais hey,
et puis c'est tout,
et puis c'est tout, en fait.
Ouais,
tu te donnes une petite tape dans l'épaule et puis tu passes à autre chose. Tu l'envoies à ta mère le premier, puis bon, au bout du troisième tu fais bon, je vais arrêter de les saouler. Alors que dans le théâtre, dans la troupe, dans le cinéma, c'est génial, parce qu'une bonne nouvelle tu la partages avec tout le monde, tu la célèbres. Allez, venez, on va sabrer le champagne, on est nommé aux Molières, c'est fou. Oh, regardez,
première fois que t'es nommé au Molière au bout de 17.
Pour tout le monde, c'est toujours super. Non, mais pour tout le monde, un bon article, on se le partage, on se l'envoie, on est tous contents. Hey, t'as lu, il y a un truc quand même assez formidable, quoi. De la même manière que quand on gagne la Coupe du Monde de foot, c'est pas pareil que quand on gagne en solitaire un truc de boxe ou je sais pas quoi. Mais j'ai besoin de la troupe, quoi.
T'écoutes beaucoup de musique?
Ouais. Tout le temps, il y en a beaucoup dans mes spectacles d'ailleurs.
Ouais, j'ai été vachement étonnée d'entendre les Rapture dans Histoire d'amour.
Et bien figure-toi que The Rapture, c'est la chanson qui a inspiré la pièce.
Ah oui, j'avais lu ça, ouais.
En fait, j'étais à Bruxelles d'ailleurs, comme quoi, même à Bruxelles, il peut y avoir
de l'inspiration. Il peut se
passer des choses. Ouais.
C'est fou. Super Bruxelles.
Ouais. Et je crois que il me semble
que
ce jour-là...
c'est pour le cycle où il y avait 12 000 de tes pièces qui étaient jouées à Bruxelles.
12 000 j'y étais, ouais, pour bosser sur un des spectacles. Et je crois que j'étais sur une place où il y a pas mal de magasins qui vendent des BD un peu, et des œuvres BD, des machins. Et je sais plus, il y avait un resto un peu emblématique, je crois qu'il doit y avoir Pierre Marcolini dans le coin, et il devait y avoir un resto un peu emblématique dans lequel j'avais mangé un truc très bruxellois. Je sais pas si je sais pas si c'était du vol au vent ou un truc comme ça, enfin, un truc très... je sais plus ce que c'était, mais enfin bon, bref. Et ce jour-là, j'écoute The Rapture, et en écoutant cette chanson, j'ai la dernière scène de la pièce. Dans ma tête, très clairement, je vois cette dernière scène avec... je vois ce mec assis sur le canapé en train de fumer une clope, je vois la danseuse derrière, je vois la petite, je vois cette scène de fin et je me repasse la musique 10 fois, 20 fois, et je vois ce moment où le noir va se faire et où c'est la fin de la pièce. Et je me dis, putain, ça ferait une super fin. Et de manière presque chelou, je me dis, ah, je le jouerais bien, ce rôle. Ça aurait du sens que je le joue. Mais j'ai absolument pas la pièce, hein. J'ai juste la scène de fin. Et c'est comme ça que est né le début de l'histoire, quoi. Marrant, hein, sur une chanson.
Mais du coup, comment tu bosses tes structures? C'est peut-être... Une histoire d'amour, ta pièce qui a la
structure la plus simple.
Ouais.
Oui, à la fois oui, à la fois non, parce que souvent dans mes structures les plus simples se cache quand même une complexité de narration. Comme par exemple dans Edmond. En Edmond, c'est une structure très linéaire. Mmh. Hein, c'est, y a pas de saut temporel. On est vraiment sur le mois de création d'Edmond, quoi. Et pourtant, la complexité de la structure tient au fait que toute la pièce de Cyrano est dedans.
Oui, c'est quand même une histoire dans une histoire malgré tout.
Voilà, il y a l'histoire de Cyrano qui est intégrée dans la vie d'Edmond.
Ouais.
Donc là est l'espèce de tour de passe-passe structurel, pourtant qui a l'air très linéaire. Et dans une histoire d'amour, c'est une histoire qui semble très linéaire, et pourtant il y a vraiment deux parties distinctes. Et toute la complexité d'une histoire d'amour, c'est que dans la première partie, sans qu'on s'en rende compte, on amène tous les éléments qui vont faire qu'au moment où on va découvrir un peu plus William et la petite, on les connaît déjà.
Mm.
Et on s'en est pas rendu compte parce que nous, on a vraiment assisté à l'histoire de...
Oui, les personnages secondaires sont devenus les principaux, quoi.
Voilà, exactement. Et donc, tout se rejoint à la fin avec tous ces personnages qui ont autant d'importance les uns que les autres. Et dans cette espèce de ces dernières 30 minutes, il y a un truc où, bah, en fait, on peut comprendre et s'identifier un peu à chacun, mm, et comprendre quelle est la souffrance de chacun et pourquoi ils en sont là, etc. Et donc ça c'est aussi comment arriver à structurellement à faire avancer cette histoire mais sans perdre de rythme, tout en étant léger en amenant beaucoup d'informations et en ayant l'impression de pas avoir une scène informative. Voilà, mais oui, c'est clairement la structure la plus linéaire de toutes et je sais plus ce que c'était la question du coup.
Mais du coup, comment tu bosses tes structures? Est-ce que tu es du genre à avoir l'air d'un enquêteur avec un milliard de post-it sur tous tes murs? Est-ce que tout se passe dans ta tête? Est-ce que...
Ouais, plutôt ouais. Ça se passe dans ma tête, en gros, en fait, ça se passe dans ma tête, j'y pense, et puis je me dis, tiens, j'ai à peu près un truc. Quand j'ai à peu près un petit squelette, je me dis, tiens, est-ce que je le mettrai pas sur papier? Puis je le remets sur papier un petit peu, je le dans une note d'iPhone, quoi. Et puis après, j'y retourne de temps en temps. Je laisse reposer. Souvent, quand on laisse reposer, en fait, il y a d'autres idées qui reviennent. Mmh. Et ça s'agglomère et ça commence à devenir quelque chose. Et quand j'ai mon début, mon milieu, ma fin et que je suis capable de le raconter, bah, je vais le raconter à quelqu'un.
Ah, donc c'est déjà bien avancé quand tu...
Quand je commence à écrire?
Ouais.
Ah ouais, bah, j'ai mon histoire, ouais. Ouais,
et
j'ai mon histoire.
T'as jamais ce truc que beaucoup d'auteurs disent de... J'écris, je sais pas encore ce qui va se passer, mais je me laisse aller et puis ça finit par devenir un peu logique ce qui va se passer?
Non.
Jamais.
Jamais.
Control freak jusqu'au bout.
C'est pas control freak, c'est que je vais pas me lancer dans de l'écriture si je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire.
Tu peux connaître les émotions que tu vas...
Si j'ai pas la fin, non, je travaille pas par thème, je travaille pas par émotion. Quand j'écris un truc, je me dis pas, ah ça, je vais chercher à raconter telle émotion, ou je vais chercher à raconter tel thème, ou telle image. Pour moi, je raconte cette histoire pour la fin. La fin va m'expliquer, la fin d'une histoire, c'est ce qui fait que les gens disent, ah ok, c'est pour ça qu'il m'a raconté tout ça. Le final, il est primordial. Que ce soit en stand-up ou au théâtre ou au cinéma ou n'importe où. La fin d'une histoire, c'est ce qui fait que les spectateurs sortent en disant genre, ok, c'est pour ça qu'il m'a raconté toute cette histoire. Elle est essentielle. Et d'ailleurs, moi, les spectacles de stand-up qui m'ont le plus touché, c'est ceux qui, à la fin, font sens. C'est ceux qui, à la fin, il n'y a pas eu juste des vannes, il y a eu un truc de « Ah, ok, la vache, tu m'as raconté tout ça pour ça. Non seulement tu m'as fait rire, mais en plus, tu me racontes quelque chose que je n'ai pas vu venir. »
C'est genre quel spectacle?
Il y en a plein. Oh, y en a plein. John Mulaney, en général, j'adore. Mais même s'il a fait controverse, le dernier Dave Chappelle, où il raconte l'histoire de sa pote trans, ben en fait, la façon dont il raconte, c'est une histoire.
Il est très très bon en storytelling.
Et ça se termine avec « Ah ok, il m'a raconté tout ça pour ça, on n'attend pas du tout ce qui se passe, etc. » Et donc, et plein d'autres, hein, Ken que j'en dis, le dernier... Je sais plus comment ça s'appelle, une pure soirée, je crois. Comme ça,
ou... une bonne soirée.
Une bonne soirée.
Une pure soirée, ça c'est PZK, non ?
C'est quoi une pure soirée ? C'est une chanson, c'est ça ?
Je pense que c'est un truc de Michael Youn et PZK, un truc du style.
Peut-être, ouais.
C'est vraiment deux mondes très différents.
Je pense que vraiment c'est le titre qu'il aurait pris, si jamais ça s'était pas déjà pris. Ouais, et ben pareil, ça, il y a une histoire en fait. Il raconte une histoire tout le long. Lui d'ailleurs, il est à fond sur la structure. Et voilà, mais plein d'autres, il y en a un million des exemples, mais effectivement, quand t'arrives en plus à avoir une finalité, tu ressors en disant j'ai pas vu que un truc que j'aurais oublié dont je me souviens juste des vannes principales. Non, il y a autre chose qui s'est passé, quoi. C'est quelque chose d'assez récent en plus, hein, dans l'histoire. Il n'y a pas forcément ça il y a 30 ans. Mais maintenant, il y a ce besoin de storytelling tout le temps, ce besoin de raconter quelque chose.
Bah sinon, on s'emmerde, parce que tout a déjà été tellement écrit.
Mais voilà, mais ça c'est valable partout, quoi. C'est valable partout, dans tous les domaines. Quand on sort d'un truc et qu'on se dit genre, waouh, la fin, ah d'accord, ok, en fait, c'est ça, ah ouais, ben, on se souvient, parce que ça fait sens, l'ensemble. Donc moi, je pars pas dans une histoire si je ne sais pas pourquoi je la raconte. Il y a forcément un truc qui est le cœur du réacteur, et que je me dis genre, voilà, je sais qu'à ce moment-là, je justifie tout ce que je viens de raconter. Et après, je vais essayer de raconter tout du mieux que je peux. Mais c'est pour ça que je raconte cette histoire. Intramuros, c'est pour cette fin que je raconte cette histoire. Le porteur d'histoire, c'est pour les 5 dernières minutes que toute cette histoire, je la raconte. Il faut que je sache où je vais, quoi.
C'est quoi, toi, les histoires qui t'ont le plus marqué ?
J'adore les scénaristes qui font, justement, qui distordent un peu l'espace-temps, quoi. Je veux dire, les Christopher Nolan... Moi, c'est parce que c'est justement, c'est de la mathématique, c'est de l'architecture de structure. J'adore me faire avoir, en fait, par une structure. Parce que, justement, comme j'ai un esprit hyper scénariste, mathématicien, dès que ça commence, je vois les possibilités. Et je suis insupportable, parce que, voilà, quand je suis avec ma meuf, ben, on va voir un truc, et puis je vais dire, bah oui, ça va finir comme ça, quoi. Enfin, je vois comme quand un scénariste plante une info.
Oui, mais tu vois que s'il zoome un peu trop sur un truc, c'est que ça aurait une importance.
Ou juste s'il mentionne quelque chose, tu sais que si quelqu'un mentionne ça, ça peut pas être gratuit.
Ouais.
Hein? Donc, je suis d'autant plus content quand je me fais complètement avoir. Mais il y en a plein, tu vois. Tu prends Wall-E de Pixar.
Ouais.
Bah, c'est la façon dont, en fait... jusqu'à la moitié du film, tu sais toujours pas où est-ce que ça va aller, tu vois. C'est hyper malin dans le sens... bon, Pixar, ils sont très très forts, en tout cas, ils étaient très très forts à l'époque. Et t'as un truc où tu vois, ça commence avec ce petit robot et tu comprends tout sans parole. Et au fur et à mesure, tu vois se dévoiler leur histoire d'amour. Et puis ensuite, tu le vois partir dans l'espace. Et ensuite, tu vois trouver les humains. Et tout ça, ça se dévoile au fur et à mesure. Les meilleures histoires, c'est quand le spectateur a l'impression d'être intelligent. Tu vois, quand il se dit « Ah ouais, j'ai compris ça. » Mais que tous les spectateurs ont compris. Et dans ce cas-là, c'est gâteau. Parce que ça veut dire que c'est pas... C'est pas quelque chose que tu lui as pré-mâché, que tu lui as envoyé une mauvaise histoire. Bah, c'est un truc où tout est informatif. Tu vois, tu plaques de l'information, tu entends de l'information. Bon, ok. Mais moi, pour moi, les meilleurs trucs, il y a Retour vers le futur, il y a un côté un peu comme ça, où vraiment, au bout de 40 minutes, tu comprends où ça va, quoi. Moi, j'adore Audiard pour sa façon de raconter des histoires, parce que dans la majorité de ses films, il arrive de manière très judicieuse à plonger ses personnages de plus en plus dans la merde, jusqu'au point où tu te dis « Bon, bah là, ils vont mourir, hein, ça va être noir. » Et au dernier moment, il les sort de la merde, et là, il arrête le film. Donc, il arrête toujours son film sur un moment d'espoir, où tu te dis « Ils peuvent s'en sortir. » Tu vois, et ça, c'est très malin comme structure, que ce soit « De battre mon cœur s'est arrêté »,« Sur mes lèvres »,« Un prophète », hein, où tu te dis le mec il va en prison, il va mourir, c'est sûr. Il sort de prison, et tu te dis ah il va peut-être s'en sortir. Et c'est la fin du film. De rouillé d'os, pareil. Et c'est hyper malin parce que du coup ça nous a amené complètement avec eux et on s'est complètement identifié. On est complètement dans un truc de oh là là ça va mal se terminer. On a appris à aimer ce héros parce qu'on aime évidemment un personnage. Parce qu'il essaye de s'en sortir et pas parce qu'il s'en sort. Et au moment où il s'en sort, et on se dit ah super, hop, fin du film, nickel. Pas besoin d'en rajouter. Donc ouais, moi j'adore les films de scénaristes quoi.
Ok.
Mais Shakespeare, c'est le meilleur scénariste. Hein. Si on parle, tu vois, de théâtre, Richard III, c'est brillant. Enfin, t'as des histoires de dingue à chaque fois. À chaque fois, il est trop fort, quoi.
Tu te sens jamais vidé d'avoir écrit, sorti toutes les choses que t'avais à sortir et donc t'as l'impression que t'es à sec.
Genre, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, tu viens d'écrire un truc, c'était éprouvant. Genre, par exemple, à la fin du roman, t'écris ouais. pendant 3 ans.
Est-ce non, que... tu rigoles ou quoi ? C'est pas vidé, c'est un soulagement énorme.
Et tu t'es pas en mode, ok, là, c'est bon, laissez-moi ressentir des choses. Me requinquer, on va dire.
Mais non, je suis en mode, ah oh là là, je vais pouvoir prendre des vacances, je vais pouvoir sauter dans la mer, ça va être super, c'est bon, j'ai fait mes devoirs, quoi.
Oui, mais justement, en termes de travail, je veux dire. Est-ce que t'es pas en mode, ok, maintenant vous me foutez la paix, le temps que je me remplisse de vrais trucs de la vie?
Bah, déjà, je prends du temps pour moi. C'est-à-dire que je suis pas un malade du travail, quoi. Enfin, maintenant, en tout cas, je sais prendre du temps pour moi, je sais prendre des vacances.
Avant, t'en prenais pas?
Non, quand j'étais plus jeune, il y avait ce truc de tant qu'on n'est pas encore là, on continue à travailler quoi.
Ok.
Et puis bon, j'ai fait un burn-out en 2014, ça m'a bien calmé et après j'ai commencé à me dire bon en fait j'ai le droit de prendre du temps. Et puis en fait quand tu prends du temps, bah tu aères aussi tes méninges et c'est une bonne manière de continuer à réfléchir. Mais non, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai vraiment pas ce sentiment-là de me dire quand j'ai terminé un truc, non, j'ai vraiment ce truc de satisfaction du travail. Enfin, si je suis content de ce que j'ai fait, bien sûr, évidemment. Si c'est nul, bon là, là c'est chiant. Mais si je suis content et que je me dis non, mais là ça tient la route, c'est bien. Je suis allé au bout de mon truc. Non, c'est un sentiment d'accomplissement quoi.
Et comment tu sais que t'es allé au bout du truc?
Bah quand t'as fini quoi. Enfin tu vois.
Ouais, mais comment tu sais que tu peux pas faire des modifications qui rendront ça encore meilleur?
Ah, ça peut être, mais peu importe. Enfin déjà quand t'as fini ton roman qui fait 700 pages, les 700 pages, rien que le fait d'aller au bout de ces 700 pages, c'est un long marathon quoi. Il y aura sûrement d'autres étapes de travail, mais déjà c'est fait quoi. Le plus dur est fait en quelque sorte.
Ouais.
Sur les producteurs par exemple, je me souviens quand on est arrivé à peu près à la moitié des répétitions. On va dire un peu plus de la moitié, mais à peu près la moitié des répétitions, on avait fini en salle de répète et on allait ensuite aller dans la salle, dans la vraie salle pour mettre les décors, pour mettre la lumière, etc. Moi, à ce stade, dans ma tête, c'est bon, bah voilà, j'ai fait mon travail, la mise en scène est là, ça y est, le spectacle, il existe. Maintenant, on va rajouter de la lumière, on va rajouter de la technique, on va bosser, etc. Mais moi, mon boulot, il est fait. Et à ce moment-là, il y a un sentiment de satisfaction, de soulagement, de bah voilà, je suis devant le résultat et j'en suis content de ce résultat. Je le vois, je suis objectif dessus, quoi. La première fois que Le Porteur d'Histoire en a fini, vraiment, j'ai eu un truc de, oh, bah voilà, ça y est, ça existe, je le vois, le spectacle. Je vois quand c'est pas bien, hein, aussi, hein. Premier jour de répétition des Cercles des Illusionnistes, je suis sorti, j'étais dépité. Je me suis dit, mais oh là là, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Puis bon, après, on retourne au travail, puis on finit par y trouver quelque chose de mieux quoi. On essaie de rebosser et puis au final bon le truc sort et puis c'est toujours plus important d'aller au bout et de sortir que de rien faire quoi, que de lâcher quoi.
Vu que dans tes histoires la narration fait que c'est toujours très excitant, qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et tout, est-ce que des fois t'es un peu frustré de la réalité?
Parce que tu veux dire que dans la réalité on s'ennuie?
Bah il y a quand même plus de temps mort quoi.
Ah quand même hein, la réalité nous apporte un sacré lot de rebondissements hein. Quand même, hein, là, depuis 2 ans, on vit quand même des trucs...
Ouais, mais c'est pas des bons rebondissements.
Ben, ça dépend, parce que on peut se servir de tout ça. Pour nous, les artistes, en tout cas, nous, les créateurs, on se sert de tout ça, c'est de la matière. Hein, je veux dire, on revient à l'Amérique, mais quand Donald Trump est passé, pour eux, c'était du pain béni pour tous les talk shows, pour tous les humoristes. Pff, royal, quoi.
Et toi, le confinement, ça t'a apporté un truc positif? T'as réussi à en tirer quelque chose?
Bah, j'ai écrit un scénario, et puis j'ai monté mon film, et oui, au final, j'en ai fait quelque chose quand même. Après, puisque ça. Puis ça m'a apporté autre chose aussi, le confinement. Moi, pour la première fois depuis 10 ans, les théâtres ont fermé, et j'avais plus de pièces à l'affiche. Et je me suis retrouvé tout à coup à souffler un peu, quoi. Et à me dire, ah, c'est pas mal quand même.
Ah, parce que ça te stresse encore maintenant, quand tes pièces sont à l'affiche, même si c'est des trucs qui tournent depuis longtemps?
Bien sûr! Mais c'est pas du stress de est-ce que ça va marcher ou je sais pas quoi, c'est juste que c'est des responsabilités en fait. Même si je délègue beaucoup et que j'ai la chance de m'entourer de plein de gens super, etc. Mine de rien, un spectacle, c'est pas comme un film en fait. C'est pas un objet qui est figé. C'est un spectacle vivant, il se passe des choses tous les jours. Il y a des comédiens, surtout en cette période de Covid, où ben voilà, il suffit qu'il attrape le Covid et puis bon, on arrête la pièce quoi. Donc il faut toujours chercher des nouveaux comédiens, remplacer, s'assurer que la pièce tourne bien, que ça décale pas, qu'ils vont pas prendre 10 minutes de plus, qu'ils vont continuer à maintenir cette énergie, ce rythme. Parfois, il y a un acteur qui va commencer à dériver, à jouer plus du tout le bon truc, donc il faut revenir, il faut le remettre dans le droit chemin, faut dire bon. Là, il va falloir retravailler cet aspect du personnage. Et c'est normal. C'est ce qu'on fait habituellement quand on est metteur en scène d'un spectacle. C'est notre boulot. Mais c'est très, très rare d'avoir 6 spectacles en même temps. Et donc, à chaque fois qu'on accumule et qu'on rajoute un spectacle, ben, ça rajoute ce type de responsabilité, de stress et de questionnement. Et c'est génial parce que ça fait bosser toutes ces personnes-là. Et ça, c'est incroyable. Et c'est une grande source de fierté. De pouvoir se dire que tous ces comédiens, ils jouent et ils défendent ces rôles et ils sont, j'espère, heureux de les défendre. Et le public aussi, mais c'est du travail, évidemment. Et c'est pas du travail qui me permet de me projeter sereinement dans une nouvelle création. Parce que, en fait, j'ai de la maintenance à faire, j'ai des trucs à gérer.
Ouais, je dirais que la maintenance, chez toi, c'est un boulot à temps plein, quoi.
Bah ouais, quand il y a beaucoup de... Plus il y a de spectacles, plus c'est un travail, quoi. Et donc c'est génial. Je peux évidemment, je suis vraiment très hyper heureux d'avoir tous ces spectacles qui tournent. Mais moi, j'aime bien continuer à créer quoi. J'aime bien continuer à écrire. Donc, pour arriver à écrire, il faut avoir l'esprit libre en fait. Je pense. Enfin, on n'écrit jamais mieux que dans des conditions où on a l'esprit un peu libre. Donc, elle est là. Donc, tout à l'heure, tu parlais de est-ce que tu te sens vide après une création? Non, c'est pas après une création, mais parfois, c'est plus dans cette espèce d'accumulation de responsabilités qui fait que c'est pas se sentir vide, c'est se sentir un peu épuisé, quoi. Mmh. C'est qu'il y a un truc de j'ai pas l'espace de cerveau nécessaire là pour ouvrir un nouveau chapitre. Voilà. Donc, de ce confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette perception de ah, tiens, mais. Là, j'ai pas de responsabilité le soir. T'as remarqué, je dis souvent, là, j'étais en tournage et donc j'écrivais. Mmh. Parce que quand je suis en tournage dans une autre ville, je sais que je n'ai pas la responsabilité d'aller voir les spectacles. Parce que je suis ailleurs. Et c'est pas non plus que j'ai pris des vacances, c'est que je suis en train de travailler. Mais la chance avec le tournage, quand tu bosses, quand t'es comédien, c'est que tu travailles pas tous les jours. Donc quand tu te retrouves au Maroc pendant 3 mois pour tourner une série, tu bosses 2-3 jours par semaine et puis le reste du temps.
T'es au Maroc.
Mais t'es un peu dans un appart ou dans un hôtel, et donc même si tu vas faire des trucs, émerge une forme d'ennui, et c'est cet ennui qui va me pousser moi à créer, parce que je vais pouvoir tout simplement me dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant, allez, je vais écrire un nouveau truc. Donc c'est souvent quand je me retrouve en tournage à l'autre bout du monde ou dans un endroit ou dans une chambre d'hôtel où il y a du temps libre que je me retrouve à pouvoir écrire et à pouvoir créer. Donc si vous voulez voir des nouveaux spectacles ou des nouveaux films, il faut m'embaucher, il faut m'envoyer tourner 4 mois sur une série en Thaïlande ou je sais pas où, et puis là je vais écrire plein de nouveaux trucs, parce que si je suis en vacances, je vais vouloir être en vacances, et si je suis à Paris, j'ai des spectacles à gérer, quoi.
C'est quoi les choses les plus importantes que tu as appris au fil des pièces, des films, du roman?
Je sais pas, plein de trucs, quoi. C'est-à-dire, dans quel domaine déjà?
C'est-à-dire dans ton écriture, dans les facilités que tu essayes d'éviter, dans les trucs où tu dis, oh putain, si seulement j'avais compris ça plus tôt, ça m'aurait évité de perdre du temps ou de.
Ça s'adresse à nos plus jeunes auditeurs, je pense. Déjà, c'est pas perdre du temps de créer, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il vaut mieux pas perdre de temps. il vaut mieux faire les choses tout de suite, surtout dans des métiers de création et d'art. S'il y a des gens qui ont 14 ans et qui se disent « Ah, j'ai envie d'être acteur », n'attendez pas d'avoir fini votre licence de droit en vous disant « Bon, peut-être qu'après, je me ferai un cours de théâtre ». Non, c'est maintenant, en fait. Plus que dans d'autres métiers, à vrai dire, bah, en fait, plus on commence jeune dans un métier artistique et plus on prend de l'avance. Et plus on emmagasine d'expérience et plus on va pouvoir vraiment être capable de le jour où on se retrouve avec des responsabilités de création, de les assumer. Tout ce que j'ai pu faire en montant des spectacles tôt, ben ça m'a épargné de me planter 10 ans plus tard. Tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des spectacles, notamment on va dire en termes de mise en scène par exemple, ben le premier spectacle que j'ai fait, il y avait pas de lumière, il y avait un plein feu quoi, et pas de décor, il y avait 3 canapés. Et puis en fait au fur et à mesure des spectacles, on commence à se poser la question de tiens, et si j'utilisais cet outil là? Et puis cet outil-là, on l'utilise de mieux en mieux, de spectacle en spectacle. Et donc le jour où on arrive vraiment avec un spectacle un peu pro et un peu ceci, un peu cela, bah on connaît cet outil. On n'a plus peur de comment le maîtriser. On a appris la grammaire théâtrale de la même manière qu'au cinéma. C'est pareil, on fait son premier court-métrage, son deuxième, son troisième, son premier film. Puis au fur et à mesure, on va commencer à utiliser d'autres outils, on va commencer à maîtriser cet objet. N'attendez pas trop longtemps en tant que créateur pour vous lancer, puisque vaut mieux se planter tôt et continuer à avancer et continuer. Il vaut mieux se planter tôt que de ne rien faire. Et en écriture, c'est pareil. Les gens qui me demandent, mais j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Écris. Juste écris. Pose-toi devant ton ordi et écris. Tu verras bien ce que ça donne. Et puis une fois que t'as fini, tu réécris. Et puis tu réécris. Puis au bout d'un moment, tu fais lire. Et puis après, tu écris autre chose. Et encore autre chose. Et encore autre chose. Et c'est là que se fait la différence, en fait. C'est que les gens qui sont encore dans ce métier, c'est ceux qui ont continué d'écrire ou de créer ou de mettre en scène. Il y a des choses qui ont évolué, évidemment. Dans l'écriture, il y a plein de choses qui évoluent au fur et à mesure. Je vois que quand j'avais 18 ans, j'écrivais non-stop, quoi. Parce que j'avais la niaque et j'avais envie. Et donc, j'écrivais des romans, j'écrivais des scénars, j'écrivais des trucs qui n'ont jamais vu le jour, hein. J'écrivais. Aujourd'hui, je me lancerai pas dans l'écriture si je me dis pas ça va exister. J'ai moins de temps, déjà. Et puis, voilà, j'ai plus trop d'intérêt à écrire quelque chose qui va pas voir le jour. Et j'ai tendance aussi à écrire au fur et à mesure, on simplifie, on fluidifie certaines choses. Mais il y a aussi des choses qui vont avec la personne qu'on est, et l'âge qu'on a, et l'instrument qu'on est. Et évidemment que je vais pas écrire sur les mêmes sujets quand j'ai 20 ans que quand j'en ai 40. Il y a des choses qui vont me tenir très à cœur quand j'ai 20 ans, et une rage que je vais avoir, une énergie que je vais avoir, et qui va transparaître dans ce que j'écris. Et évidemment que quand j'en aurai 40, je n'écrirai pas de la même manière. J'aurai peut-être un peu plus de recul, un peu plus de sagesse, un peu moins de hargne. C'est comme les rappeurs qui, évidemment, au départ, quand ils commencent à émerger, bah ils ont la rage, quoi. Ils ont la niaque, tout passe dans leur texte, dans l'énergie. Puis après, ben le plus difficile, c'est au moment où on s'embourgeoise, comment est-ce qu'on continue à écrire une chanson qui parle de résistance, de rébellion, de colère, de... À quel moment il faut continuer à trouver ça? Moi j'ai pas cette obligation. Moi, ma seule question, c'est d'essayer de continuer à trouver des histoires qui peuvent émouvoir des gens et continuer à les amener avec moi et à les surprendre, quoi. Donc je sais pas si j'ai beaucoup appris de choses.
C'est quoi dont t'es le plus fier?
Il y a plein de choses, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que ce dont je suis plus fier, c'est d'avoir réalisé mes rêves, quoi, tout simplement. C'est d'avoir réalisé des trucs dont je rêvais quand j'étais gamin, quoi. Donc, Edmond, c'est quelque chose que j'ai eu en tête pendant 15 ans. Je veux dire, là, ce serait fou de réaliser un film sur la première de Cyrano. Mais j'y pensais, j'avais 20 ans. Donc, dans ma tête, c'était impensable qu'un jour, je puisse vraiment être aux commandes d'un film à plusieurs millions d'euros. Donc il y a un truc un peu fou dans le fait de se dire putain, je l'ai fait, quoi. Et c'est des choses qui du coup nous mettent ça nous permet en fait de nous dire bon bah en fait du coup je peux faire à peu près ce que je veux, il suffit que j'en rêve et que je travaille pour y arriver, quoi. Ça prendra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est possible, en fait. Mais il faut un plan
toujours.
Ouais, il faut un plan qui va évoluer, mais il faut un plan. Il faut se dire bon, si je veux arriver là, qu'est-ce que je commence par faire? Et souvent je dis que le temps on en revient encore au temps, ça peut être une force terriblement destructrice, mais aussi un allié extraordinaire. Ça peut être une force destructrice dans le sens où, si on est face à l'échec, chaque année qui passe nous le renvoie d'autant plus. Si on a envie d'avoir un enfant avec son partenaire et que en fait chaque année on n'y arrive pas, ben chaque année qui passe on a de moins en moins d'espoir et ça nous détruit moralement. Si on a envie de si on rêve d'être comédien ou d'être artiste, d'être danseur, d'être danseuse, chaque année qui passe nous éloigne d'autant plus de cet objectif et donc c'est d'autant plus difficile à accepter. Et mille raisons. En revanche, ça peut aussi être un allié incroyable parce que si on a envie de faire quelque chose, si on a envie de construire une maison, bah en fait, d'année en année, on va commencer par les fondations et puis on va faire le rez-de-chaussée et puis le premier étage. Puis ça va prendre du temps, mais en fait, 10 ans plus tard, à un moment, on va se retourner, on va dire bah ça y est, j'ai construit cette maison. Il y a quelque chose où notre allié à ce moment-là, c'est le temps. Moi, quand j'avais 20 ans, je pouvais pas concevoir que je réaliserais Edmond un jour. Mais dans ma tête, je me disais, bon, si je devais le réaliser un jour, comment je fais, en fait? Bah, il faut bosser. Faut commencer par faire un premier court-métrage. Et pour ça, bah, il faut écrire un scénario. Et puis, il faut trouver de l'argent. Et puis, ceci. Puis, un deuxième. Puis, un troisième. Puis, une pièce. Puis, une deuxième. Puis, finalement, ça commence à marcher. Et puis, autre chose. Et puis, en fait, les années passent. Et toutes ces choses s'accumulent et un jour, on se retrouve à l'endroit où on rêvait d'être. Et tout ce qu'on a fait pendant 15 ans nous a mené à cet endroit-là. Et ça, c'est le temps qui permet ça. Donc tout ce qu'on entame, tout ce qu'on travaille, cette série de 800 pages là, que j'ai faite en me disant bah, « je vais la faire, puis on verra bien si ça nous mène quelque part ». Au final, elle n'a jamais existé, mais ces 800 pages d'écriture, elles m'ont permis de rencontrer des producteurs, elles m'ont permis de me dire qu'il était possible de se retrouver à cette position de scénariste, et puis plus tard de réalisateur, et de se projeter dans cette possibilité. Donc, plus on commence tôt, et plus on y travaille, et plus c'est possible. Je sais plus quel golfeur disait, à un moment, il faisait plein de tournois et puis on lui dit mais vous avez vachement de chance en ce moment et il dit ouais mais alors c'est fou plus je m'entraîne plus j'ai de la chance et il y a pas de mystère quoi. Voilà, c'est la fin de ma masterclass.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Les gens qui doutent. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Dans la description de cet épisode, vous trouverez tous les endroits où suivre Alexis sur les réseaux, mais aussi et surtout les liens pour assister à ses pièces, pour trouver son roman ou pour regarder ses films. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à mettre des étoiles sur iTunes ou Spotify, voire à soutenir sur Patreon ou Acast si vous le voulez et si vous le pouvez. Vous pouvez faire des dons de la somme de votre choix. Et puis évidemment, vous pouvez me suivre moi sur les réseaux, Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout sur Instagram, c'est là que je poste le plus de choses. Il y a chaque semaine des chroniques, France Inter, il y a des podcasts, il y a des blagues et des photos de bébés chats parce qu'on adore ça. Des bisous. Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incorrigible Maxime Wathieu.